Chapitre 13. Je fus d'abord frappé par la température. Il faisait plus chaud en sous-sol qu'à la surface. Les parois de terre protégeaient du vent et isolaient du froid de l'arrière-saison. Deuxième constatation, je pouvais me tenir debout. En fait, je pouvais balancer les bras, marcher devant, sur le côté, derrière. Je m'étais attendu à être voûté, oppressé. Au lieu de cela, la cavité était carrément spacieuse, même lorsque le capitaine Dodge nous eut rejointes dans la pénombre. Mes yeux s'accoutumèrent, débrouillèrent le patchwork d'ombres noires et de projecteurs lumineux. Je m'approchai d'une paroi, en touchai la surface légèrement rainurée, sentis la terre compacte. « Je ne comprends pas, » dis-je enfin. « Jamais un homme seul n'aurait pu creuser un trou aussi grand à la main. Il faut un tractopelle, un gros engin. Comment une chose pareille peut-elle se produire sans que personne ne le remarque ?» Le commandant Warren me surprit en étant la première à répondre. On pense que ça faisait partie d'un autre chantier à l'origine. Peut-être une rigole pour l'évacuation ou juste une fosse où on venait chercher du remblai pour un autre endroit. À la fin des années 40, début des années 50, les bâtiments poussaient comme des champignons pour suivre l'augmentation du nombre de patients. On trouve des fondations à moitié finies, des décharges de matériel, plein de trucs dans toute la propriété. Donc cette fosse a eu une existence officielle à une époque ? Peut-être, répondit-elle en haussant les épaules. Il ne reste plus grand monde à qui poser la question. Ça remonte à 50 ans. Je levai la main, tâtai le plafond en bois, avançai, touchai les poteaux. Mais il a fait tout ça? Il l'a converti, pour ainsi dire. C'est notre hypothèse. Ça a dû lui prendre du temps. Personne ne me contredit. De l'argent, continuai-je en réfléchissant à voix haute. Du bois, des clous, un marteau, des efforts. Est-ce qu'un des patients de l'hôpital aurait vraiment été aussi organisé, aurait eu la possibilité de sortir et de rentrer comme ça dans le parc? Didi haussa à nouveau les épaules. Tout ce qui se trouve ici aurait pu être récupéré sur les dépotoirs des chantiers dans la propriété. Jusqu'à présent, j'y ai vu tout et n'importe quoi, de la poussière de ciment jusqu'à des tuiles ou des châssis de fenêtres. Je fis la grimace. Pas de fenêtre ici? Non, pas pour ce qu'il avait en tête. Je réprimai un frisson, m'approchai du mur du fond. Quand pensez-vous qu'il a commencé?
Je ne sais pas. Il y avait une 30aine d'années de végétation sur le contreplaqué, donc ça nous ramène aux années 70. L'hôpital était moribond à cette époque-là et l'endroit plus abandonné qu'autre chose. Ça se tient.
Et il a opéré pendant combien de temps?
Je ne sais pas.
Mais il devait connaître le coin, insistai-je. Il avait dû être patient à l'hôpital ou peut-être même y travailler. Je veux dire, pour avoir découvert cet endroit, pour savoir où récupérer son matériel, pour ne pas avoir peur de revenir plein de fois.
Au stade où nous en sommes, tout est possible.
Mais son ton indiquait qu'elle était sceptique. J'eus l'impression qu'elle était focalisée sur le fait que le parc était à l'abandon, de sorte que n'importe qui pouvait s'être promené sur les 80 hectares du site. L'idée me coupa un peu l'herbe sous le pied. Je relevai le menton, m'entêtant dans mon rôle d'enquêtrice amateur. « Vous avez dit qu'il y avait du matériel ?» lançai-je.
« Étagère en métal, chaise en métal, seau en plastique. »«
Pas de couchage ?»«
Pas que nous ayons trouvé. »«
Lanterne, réchaud ?»«
Non, mais deux crochets au plafond qui ont pu être utilisés pour accrocher des lampes. »«
Pourquoi vous dites ça ?»
Parce qu'il avait placé les crochets devant les étagères métalliques où il stockait les corps.
Je vacillais, tendis un bras pour m'appuyer contre le mur de terre froid, mais retins brusquement ma main. Pardon ? L'expression de Didi était devenue dure, son regard inquisiteur.
C'est à vous de me dire. C'est vous qui prétendez être le témoin. Que voyez-vous ici ?
Rien.
Le terrain, le parc, quelque chose qui vous soit familier ?
« Non, » répondis-je faiblement. « Je ne suis jamais venue ici. J'imagine, » dis-je, tandis que ma main retournait sur le mur, que mes doigts le touchaient avec hésitation. « J'imagine que ce n'est pas le genre de chose qu'on oublie. »«
Non, j'imagine que non, » confirma-t-elle sévèrement.
Elle s'approcha, se plaça à côté de moi. Elle posa sa main à côté de la mienne, les doigts écartés,
La peau m'aplat contre la terre froide, comme pour démontrer qu'elle pouvait affronter cette tombe mieux que moi. À l'endroit exact où nous sommes, il y avait deux longues étagères métalliques. Ils s'en servaient pour le stockage. C'est là qu'ils mettaient les corps. Un par sac poubelle, trois par étage. Deux petites rangées bien nettes. Mes doigts se crispèrent. Mes ongles s'enfoncèrent dans le sol à vif et je sentis la terre dure et compacte pénétrer sous mes ongles. Et à cet instant, je jure que je l'ai perçu. Le mal profondément enraciné. Un froid puissant, mordant. Je battis précipitamment en retraite, avec de petits mouvements circulaires des pieds, tandis que je fouillais le sol du regard, cherchant des signes de... quoi ? De lutte ? De sang ? L'endroit où un monstre avait violé ma meilleure amie, lui avait arraché les ongles, lui avait attaché des tenailles aux tétons avant de l'égorger. J'avais lu trop d'articles, passé trop de temps à écouter les leçons de mon père. Pourquoi lire « Bonsoir Lune » à son enfant quand on peut lui lire « Monstre du XXIe siècle » ? J'allais vomir, mais ce n'était pas possible. Mes pensées s'affolaient, s'emballaient. Je me souvenais de ma petite camarade de 7 ans. Je revoyais toutes les photos de scènes de crime que mon père avait pu me montrer. « Qu'est-ce qu'il a fait ? » m'entendis-je demander. « Combien de temps ont-elles été gardées en vie ? Comment les a-t-il tuées ? Est-ce qu'elles se connaissaient ? Est-ce qu'elles ont dû rester ici, entourées de cadavres dans le noir ? Éteignez les lumières ! » réclamai-je d'une voix maintenant incontrôlée, incohérente. « Éteignez ces putains de lumières ! Je veux savoir ce qu'il leur a fait ! Je veux savoir ce qu'elles ont ressenti !» Le capitaine Dodge m'attrapa les mains. Il pressa mes paumes l'une contre l'autre, apaisa mes mouvements convulsifs, rapprocha mes mains de ma poitrine. Il ne dit rien. Se contenta de rester là, à me regarder calmement, avec ses yeux gris, jusqu'au moment où, d'un coup sec, je sentis quelque chose se briser en moi. Mes épaules s'affaissèrent. Mes bras se relâchèrent, mon hystérie s'évacua, et je me retrouvai toute molle, vidée. À repenser à Dory et à ce dernier été où nous ne savions ni l'une ni l'autre à quel point nous avions la belle vie. Son parfum de glace à l'eau préféré était raisin. Pour moi, c'était soda. Nous mettions ces parfums de côté dans les assortiments que nos mères achetaient et nous les échangions chaque samedi. Nous faisions la course dans la rue pour voir laquelle allait le plus vite à cloche-pied. Un jour, je suis tombée et je me suis écorché le menton. Dory est revenue en arrière pour voir si j'allais bien, et pendant qu'elle se baissait, je me suis relevée d'un bond et j'ai passé la ligne d'arrivée en sautillant, rien que pour pouvoir dire que j'avais gagné. Elle ne m'a pas adressé la parole de toute la journée, mais j'ai tout de même refusé de m'excuser, parce que, déjà à l'époque, la victoire comptait plus pour moi que son air meurtri. Tous les dimanches, sa famille allait à la messe. Je voulais y aller avec eux parce que Dory était toujours tellement mignonne dans sa robe du dimanche, blanche avec un ourlet bleu clair. Mais mon père me disait que l'église était pour les ignorants. J'allais donc chez Dory le dimanche après-midi, et elle me répétait les histoires qu'elle avait entendues ce matin-là. Celle de Moïse sauvé des eaux, celle de Noé et de son arche, celle de la miraculeuse naissance de Jésus dans une crèche. Et je récitais une petite prière avec elle, même si ça me donnait mauvaise conscience. J'aimais l'expression de son visage quand elle priait, le sourire serein qui se posait sur ses lèvres. Je me demandais si elle avait prié dans cette fosse. Je me demandais si elle avait prié pour vivre ou pour que Dieu ait pitié d'elle et l'emporte. J'eus envie de prier. J'eus envie de tomber à genoux et de supplier Dieu de soulager un peu cette énorme pression dans ma poitrine. J'avais l'impression qu'un poing était entré en moi pour me broyer le cœur. J'ignorais qu'on pouvait survivre à tant de souffrances, ce qui m'amenait simplement à me demander comment ses parents avaient pu traverser toutes ces années. Est-ce que l'existence se résumait à ça, en fin de compte ? Des petites filles contraintes de choisir entre une vie à fuir les ombres et une mort prématurée seule dans les ténèbres ? Quelle sorte de monstre est capable d'une chose pareille ? Pourquoi Dory n'avait-elle pas pu s'échapper ? Je fus heureuse en cet instant que mes parents soient morts. Qu'il n'ait pas eu à savoir ce qui était arrivé à Dory ou ce que la décision de mon père avait eu comme conséquence pour la meilleure amie de sa fille. Mais tout de suite après, j'eus un sentiment trouble. Encore une ombre qui dansait dans les recoins de mon esprit. Il était au courant. J'ignorais comment je le savais, mais je le savais. Mon père avait su ce qui était arrivé à Dory et cette idée me mit plus mal à l'aise encore que les 4 murs qui se refermaient sur moi. C'en était trop. Mes mains vinrent se poser sur mon front. Il faudra attendre les rapports de l'anthropologue judiciaire pour en savoir plus sur les victimes, déclarait le commandant Warren. Je hochai simplement la tête. Disons simplement que nous cherchons un individu très méthodique, extrêmement intelligent et dépravé. Autre bref hochement de tête. Naturellement, tous les souvenirs que vous pourriez avoir de cette période, en particulier de l'individu qui surveillait votre maison, seraient très précieux. J'aimerais remonter maintenant, répondis-je. Personne ne protesta. Le capitaine Dodge ouvrit la voie. Une fois en haut, il me tendit une main. Je refusai, sortis toute seule. Le vent avait forci, il agitait bruyamment les feuilles à l'agonie. Je tournai la tête vers son souffle cinglant, puis je fermai le poing. Je sentis sous mes ongles les débris sinistres de la tombe de ma meilleure amie.